vous évaluez exposé à des risques de pollution. Cela veut-il dire que nous avons assez de ressources pour faire face au manque d'eau, mais qu'elles ne sont juste pas suffisamment exploitées?
Bonjour Abdou Rahman et je salue aussi les autres membres de ce panel, mon frère Sen et le collègue de Action contre la faim. Merci pour votre question si pertinente. Tout à fait, je crois qu'il y a les rapports aussi bien de l'UNESCO que le rapport que WaterAid aussi a eu à faire avec l'Institut de géologie de la Grande-Bretagne montre que c'est un mythe que de penser qu'il n'y a pas suffisamment de ressources à nos souterraines pour le continent. Il y en a suffisamment. Cependant, il faut rendre ces ressources disponibles, accessibles pour l'eau potable, pour aussi l'irrigation, etc. Donc, il faut investir plus dans la connaissance de ces ressources et il faut aussi investir plus dans la mise à disposition et l'accessibilité de ces ressources. Et c'est à ça que vraiment nous appelons les gouvernements, les institutions multilatérales et le secteur privé, parce que il y va vraiment de la réalisation des engagements qui ont été pris, notamment l'accès à l'objectif de développement durable et assainissement.
D'accord. Alors, Bram, avec la raréfaction de l'eau, est-ce qu'on doit craindre une sorte de, je vais le mettre en ces termes, de compétition entre zones urbaines et zones rurales, ces dernières n'ayant pas vraiment ce pouvoir de lobbying, si on peut le dire ainsi, que les grandes villes ont?
Merci beaucoup pour cette question. Bonjour à tout le monde. D'abord, je voudrais dire qu'en termes de raréfaction de l'eau, c'est une question qui concerne tant le milieu urbain que le milieu rural. Et ça se voit exacerbé, notamment à travers le changement climatique. Donc on voit très clairement une intensité de pluie en saison de pluie et une intensité de saison sèche qui s'alterne. On voit plus de ruissellement et donc des pertes d'eau de façon globale et donc de l'érosion des terres et donc moins d'infiltration des eaux dans les aquifères. Donc le changement climatique a énormément d'effets sur la capacité des aquifères à alimenter les villes et le milieu rural en termes d'eau potable. Maintenant, surtout en situation de crise et de situation fragile, c'est 8 sur 10 ménages qui n'ont pas d'accès à l'eau potable, ils habitent au milieu rural. Donc il y a un déséquilibre total, si vous voulez, entre le milieu rural et le milieu urbain. Le cas d'Ouganda, si je peux juste citer un exemple, il y a 80% d'accès à l'eau potable en milieu rural, urbain, contre 45% d'accès en milieu rural. Enfin, un dernier point, en milieu urbain, il y a aussi énormément d'inégalités. On peut avoir une ville où des grandes franges de population n'ont aucun accès à l'eau potable. Ça, c'est évidemment aussi un grand souci à relever. Qu'est-ce qu'on peut faire?
On pourra revenir sur ce qu'on peut faire. Alors, on a pu avoir Abdoulaye Sen, le secrétaire exécutif de ce Forum mondial de l'eau, au téléphone. Alors, M. Sen, avec une population africaine qui non seulement va doubler d'ici 30 ans, selon les projections, mais qui s'urbanise de plus en plus, est-ce qu'on devrait s'inquiéter? Le discours du président Sall à l'ouverture était assez alarmiste, n'est-ce pas?
Il était alarmiste, peut-être pas autant. En tout cas, il interpelle le discours du président Latif sur l'urgence à replacer l'eau au cœur des priorités. Parce que, comme vous l'avez indiqué, l'eau reste une ressource indispensable pour la vie, pour le développement. Et nous savons tous, comme vous l'avez indiqué, que nous nous acheminons vers une augmentation très importante des besoins en eau pour d'abord la consommation domestique, mais aussi pour les besoins agricoles et également pour les autres besoins économiques. Et si vous prenez en compte aujourd'hui que les ressources sont limitées, qu'elles sont aussi fragile face au changement climatique. Et en plus de cela, il y a des problématiques de pollution qui viennent mettre davantage de contraintes. Il y a de quoi effectivement interpeller non seulement l'Afrique, mais le monde entier sur l'urgence à prendre des mesures, des initiatives et des actions pour accélérer d'abord l'accès universel à l'eau et à l'assainissement, mais également rendre l'eau productive disponible pour que les populations rurales africaines notamment puissent véritablement dérouler une agriculture sécurisée face au changement climatique et à d'autres phénomènes que j'ai évoqués.
Est-ce qu'il est possible d'évaluer justement les besoins en financement aujourd'hui pour satisfaire les besoins d'une population grandissante alors que déjà plusieurs villes africaines sont confrontées à des problèmes d'alimentation en eau?
Oui, alors, vous savez, l'ordre de grandeur est de l'ordre de 100 milliards de dollars par an. C'est des finances extrêmement importantes pour faire en sorte que nous puissions réaliser les infrastructures qui sont nécessaires en termes d'infrastructures d'adduction d'eau, en termes d'infrastructures de barrages, en termes d'infrastructures de transfert d'eau, etc., de potabilisation, mais pour également assurer le renouvellement des installations et assurer leur exploitation. Donc en fait, quand on parle de financement, il faut intégrer l'ensemble de ces compositions. C'est des montants importants, et si vous regardez les montants qui sont disponibles, vous êtes à peine au cinquième, voire même dans certaines zones, au dixième.
D'accord.
Ça veut simplement que si on analyse aujourd'hui le niveau des investissements, nous risquons en 2030 d'être en situation d'accès à l'eau moins bonne que celle que nous avions en 2015, au moment où la communauté mondiale a décidé d'assurer en 2030 l'accès universel à l'eau.
D'accord,
qui doit nous interpeller tous.
Absolument. Alors, Mariam Dem, justement, c'est vrai qu'on pointe souvent du doigt le manque d'infrastructures et de distribution d'eau, mais il y a aussi la question du gaspillage, surtout en zone urbaine, et l'eau non récupérée. Comment résoudre ces problèmes?
Merci beaucoup, Abdurman, pour la question. En fait, je pense qu'il y a aussi bien de la responsabilité des gouvernements et des sociétés d'eau que de la responsabilité des citoyens à travers une éducation par rapport à la rarification de la ressource en termes de disponibilité, mais aussi en termes de perte qui impacte aussi bien ces citoyens que aussi pour au niveau de l'économie nationale. Et je pense qu'il ne faut pas aussi qu'on pense que en fait ce gaspillage-là, il n'est pas toujours du fait des communautés ou des citoyens. Il est aussi du fait un peu de comment les grandes industries ou comment effectivement les populations les plus nantis aussi sont en train d'utiliser les ressources en eau. Parce que bon, il y a un mode de vie qui est. Donc je crois que cela réfère à la gouvernance. La gouvernance de l'eau, et les gouvernements ont la responsabilité d'assurer qu'il y a vraiment une bonne gouvernance de l'eau en termes de, d'abord, non seulement de la connaissance des ressources qui sont disponibles, de leur accessibilité, mais aussi des usages qui sont faits de ces ressources-là, pour que, effectivement, l'accès à l'eau potable pour l'usage domestique, l'accès à l'eau potable dans les centres de santé, dans les écoles, l'accès à l'eau potable, à l'eau pour pouvoir avoir des activités économiques soient garanties pour les populations, notamment les plus démunies. Et quand on parlait du milieu urbain, et je crois qu'on a montré qu'il y a des inégalités même par rapport à cet accès, mais aussi par rapport à la qualité et au coût de l'eau concernant ces populations, parce que selon qu'on est dans la banlieue ou qu'on est là, il y a une très grande différence. Donc je crois
D'accord.
que il ne faut pas gaspiller, mais c'est de la responsabilité de l'État d'assurer que dans la gouvernance mise en place, que ces aspects-là sont abordés et que ceux qui gaspillent le plus ne sont pas les communautés.
Alors, Bram, on parle cette année, on parle beaucoup de ces eaux souterraines. Est-ce qu'il est plus coûteux, plus difficile d'exploiter ces eaux souterraines, sachant qu'elles peuvent aussi contribuer à l'irrigation, donc à l'agriculture et à l'alimentation des populations?
Merci. Est-ce qu'il est plus coûteux, difficile d'exploiter? Pas forcément, mais je veux d'abord dire que ce qu'il faut absolument faire par rapport à ces eaux souterraines, c'est d'avoir une caractérisation. Les eaux souterraines sont une boîte noire aujourd'hui, surtout en Afrique. On n'a aucune idée, une idée très vague et très superficielle sur la vraie capacité de ces eaux souterraines. Or, du moment, si on ne sait pas cette capacité de ces eaux, on ne sait pas non plus combien on peut en extraire pour l'agriculture. Aujourd'hui, à l'échelle mondiale, 70% des eaux fraîches sont dédiées à l'agriculture et à l'irrigation pour l'agriculture. Donc c'est un énorme secteur de consommation. Donc il faut d'abord cartographier, et il est fort temps que les gouvernements partout dans le monde, et spécifiquement en Afrique, commencent à mettre de l'argent, commencent à avoir un cadre légal et commencent à regarder quel est le niveau de ces eaux souterraines. Et ça, il avait fallu faire probablement il y a 10 ans, mais il n'y a jamais trop tard pour commencer. Et maintenant, il est temps de commencer.
Il faut investir beaucoup dans la recherche, si je comprends bien. Alors, voici quelques commentaires de nos téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. Alphonse Mwaki à Kinshasa nous dit: les pays avec beaucoup de sources d'eau comme la RDC doivent accepter de partager l'eau avec ceux du bassin du lac Tchad, victimes de la sécheresse. Aussi, les États qui ont beaucoup d'autres défis à relever doivent autoriser la privatisation du secteur de l'eau. Yao Marcelin Kofi à Abidjan, Côte d'Ivoire, nous écrit, dit: l'eau qui est source de vie est malheureusement source de mort en Afrique car elle est de mauvaise qualité. Nos gouvernants devraient prendre à bras le corps la question de l'eau pour étancher la soif des populations africaines pour qui l'eau potable est une denrée rare. Et puis Aladoum Ruben au Tchad nous dit que comme l'électricité, l'accès à l'eau est un sérieux problème au Tchad, même les populations qui habitent les grandes villes n'arrivent pas à avoir l'eau de la STE en permanence pour résoudre le problème. À défaut de construire les châteaux partout, que le gouvernement fasse de son mieux pour réaliser des forages dans les villages. Voilà, merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture, nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum.
L'actualité africaine au quotidien, c'est ce que vous propose VOA Afrique. Je suis Anastasie Duliège, à Kinshasa.
De vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Au Tchad, l'eau potable est une denrée rare. Il est toujours difficile pour le Tchadien moyen d'avoir accès à l'eau potable malgré les efforts fournis ces dernières années par le gouvernement. Avis mitigé de quelques citoyens dans les rues de N'Djamena rencontrés par notre correspondant André Kolmajinga.
Vous avez célébré la journée mondiale de l'eau, je suis d'accord avec vous, mais de quel où vous parlez exactement? Parce que maintenant, le mois passé, je revenais de Marikebi, mais on boit encore de l'eau du puits, et quand on fait sortir cette l'eau du puits, c'est rouge.
c'est rouge. Donc il y a même des insectes là.
Je sais que vous dites, aller de l'eau potable ou même de l'eau, là, ça c'est des chantages. Quoi. Il y a les institutions qui s'occupent de l'eau, mais ces institutions-là n'existent que de nom.
Qui dit l'eau potable, c'est d'abord la qualité, c'est d'abord la propriété. Parce que plus de 70% de la population tchadienne n'arrive pas à consommer de l'eau potable. Et même l'eau que vous voyez, ce n'est pas potable. Est-ce qu'on connaît à peu près la qualité? C'est ça aussi.
La population tchadienne a accès à l'eau potable par rapport aux années précédentes, vu l'effort que le gouvernement tchadien a eu à faire. Mais l'on ne peut pas se dire qu'elle a totalement accès à l'eau potable parce que dans les quartiers, certains quartiers reculés de la ville, voire même certaines provinces du Tchad, la population tchadienne a vraiment des difficultés d'accès à l'eau potable. Ceux qui ont des forages à motricité humaine, comme on le dit, l'eau, il y a l'eau, mais l'eau n'est pas de bonne qualité. La chlorée est un peu rouge et ça a un peu de saleté qu'il y a. Donc, du coup, quand tu bois, tu as même automatiquement mal au ventre. Mais ici, en Djamena, je vois que la Société tchadienne des eaux ne fait pas cette opération de nettoyage des pompes ou des tuyaux, des drainages d'eau et tout ça.
L'eau, c'est la vie. Mais ici, au Tchad, c'est plutôt la propre. On a carence de l'eau. Ceux qui boivent de l'eau pure, claire, c'est ceux qui ont des moyens. Mais disons, la plupart des habitants qui sont dans les quartiers périphériques, c'est de l'eau qu'ils boivent. Ça, c'est l'eau de marre, c'est pas l'eau. Donc je dirais que ici au Tchad, on ne boit pas de l'eau pure en tant que telle, mais c'est l'eau de mare que nous consommons, nous les Tchadiens.
Voilà, merci beaucoup André Kodmajinga. Alors je rappelle nos invités pour ce Washington Forum, tous à Dakar. Ibrahim Hassen, secrétaire exécutif du 9e Forum mondial de l'eau. À Dakar toujours, Marianne Dem, directrice des projets spéciaux à WaterAid, et Bram Riems, responsable du service eau, hygiène et assainissement à Action contre la faim. Alors, Monsieur Sen, des engagements seront certainement pris à l'issue de ce forum de Dakar, mais qu'attendez-vous de cette rencontre, surtout à un an de la conférence des Nations Unies sur l'eau?
Oui, des engagements très importants ont déjà commencé à être pris. Dans le cadre de ce forum, nous avons entendu à l'occasion de différentes rencontres, des sessions et panels au niveau des annonces particulièrement prometteuses de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement, de la Banque islamique de développement, de l'UNESCO, mais aussi à travers le panel des CEO que nous avons organisé. Nous avons enregistré des engagements extrêmement importants. Je voudrais peut-être dire que globalement, notre ambition à travers ce forum de Dakar, c'est de remettre l'eau au cœur des priorités, de faire en sorte que dans un continent comme celui de l'Afrique, où les problèmes d'accès à l'eau sont des contraintes extrêmement importantes pour le bien-être, pour également la sécurité des populations, que nous puissions avoir des engagements importants pour accélérer l'action en vue de l'accès universel à l'eau. Ça, c'est une de nos premières priorités. Notre priorité, c'est également de faire prendre des mesures pour assurer la sécurité des ressources face au changement climatique, face à la pollution liée notamment à l'exploitation minière, face également aux autres menaces qui aujourd'hui laissent apparaître des risques importants sur les ressources en eau. L'autre priorité, c'est de faire aussi en sorte que Dakar soit l'occasion d'affirmer et de construire surtout des synergies et des initiatives pour que l'eau soit davantage un connecteur, un facteur de paix plutôt qu'un facteur conflictuel. Ensuite, ce qui est important pour nous, c'est de faire en sorte que l'eau puissent bénéficier de toutes les attentions afin d'offrir un levier pour la création d'emplois au profit des jeunes, pour l'amélioration de l'attractivité du monde rural et pour lutter contre l'exode rural et contre l'immigration. Ce sont des ambitions importantes qui devront être soutenues par des financements importants, par l'action, les connaissances fait ici dans la gouvernance, une gouvernance qui soit participative et inclusive.
D'accord. Alors, Mariam Dem, l'ONU n'avait pas organisé une conférence sur l'eau depuis 1977. Alors, qu'attendez-vous de celle de l'année prochaine à New York?
Nous attendons qu'elle soit un moment de rupture parce que nous rendons compte qu'il y a urgence. Il y a urgence à mettre plus de financement. Il y a urgence à avoir une bonne gouvernance. Il y a urgence à réaliser, à avoir collecté des données fiables et à les analyser et à avoir des politiques qui répondent vraiment, qui puissent adresser les déficits qu'il y a. En termes, notamment pour les populations les plus pauvres et parmi lesquelles les populations de l'Afrique. Donc, nous attendons aussi une plus grande implication des acteurs d'aujourd'hui, que sont les jeunes. Il y a une plus grande implication des acteurs femmes, parce qu'elles sont au centre de cette question de l'eau potable, de l'hygiène et de l'assainissement. Mais au-delà de ça, elles sont aussi, généralement, celles qui subissent le plus gros poids du non-accès à ce droit le plus élémentaire. Donc, il y a aussi à aider les gouvernements, parce qu'on se rend compte qu'il faut plus de financement, mais on se rend compte que même les financements disponibles ne sont pas totalement utilisés. Parce que justement, on n'a pas de données pour avoir des programmes bien structurés. Et donc, la BAD en a parlé, et souvent aussi, beaucoup de bailleurs disent que ça, c'est un problème. On attend que. On attend la rupture, en fait. On attend la rupture dans les façons de faire.
D'accord. Alors. Voilà. Bram, est-ce que vous craignez un peu qu'avec les crises comme le conflit en Ukraine actuellement ou la pandémie de COVID-19, que ces crises-là nous détournent un peu l'attention des décideurs des questions de l'eau dans les pays en développement? Et autrement dit, comment est-ce qu'il faut garder l'attention sur ce problème d'accès à l'eau avec tout ce qui se passe?
Merci. J'espère que l'attention ne sera pas détournée à l'Ukraine, au Covid-19 ou à autre chose, parce qu'essentiellement, le conflit en Ukraine, il est au fond aussi une crise de l'eau. Et le Covid-19, je vous rappelle, est aussi essentiellement une crise d'hygiène. Or, beaucoup de populations, par exemple en Afrique, ils veulent se laver les mains, mais ils ne peuvent pas. Parce que d'abord, ils n'ont pas accès à l'eau potable, et encore moins à l'accès à l'eau pour pouvoir se laver les mains. Donc, ce sont essentiellement des conflits wash, on peut dire. Donc, on espère que d'ici aussi la conférence l'année prochaine, 2023 des Nations Unies, que vous avez mentionné, on aura plus d'attention sur notre secteur. On va continuer en tant qu'acteur dans le secteur, dans le domaine humanitaire, à mettre l'eau et la crise de l'eau sur l'agenda des décideurs. Et on espère aussi, enfin, que la conférence l'année prochaine va prendre des décisions concrètes, mesurables, pour pouvoir atteindre des objectifs de développement durable.
D'accord. On n'a pas beaucoup de temps, mais Mariam, l'Afrique et les zones de conflit, par exemple, comme au Sahel, ça rend encore plus compliqué la question de l'accès à l'eau, n'est-ce pas?
Tout à fait. Et votre question est aussi très pertinente. Au niveau de Ouattara, en fait, on regarde l'accès sous quand ces conflits-là déplacent des populations qui viennent trouver, s'installer dans des zones où déjà il y a un déficit par rapport à l'accès à l'eau potable. Il y a un déficit pour avoir de l'eau pour des activités économiques, etc. C'est comment faire en sorte que le déficit ne s'agrandit pas et qu'on puisse vraiment mobiliser le gouvernement et appuyer le gouvernement et les autres acteurs à faire face à cette demande accrue. Mais je crois que de plus en plus, on voit
que... J'imagine que c'est un sujet pour un autre jour, un sujet très vaste. Malheureusement, nous arrivons à la fin de ce Washington Forum. Merci à nos invités et à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent, sur notre site voafrique.com et sur notre page Facebook. Un grand merci également à toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.